Bonjour Marie-Anne Vanier.
Bonjour.
Vous êtes professeur et chercheur en théologie à l'Université de Lorraine sur le site du CAEPRE à Metz. Vous consacrez une grande partie de votre vie académique à faire connaître l'œuvre de Maître Eckhart et de ses disciples directs, notamment Henri Suzeau et Jean Toller. L'œuvre que nos auditeurs vont découvrir dans un moment et dont vous êtes l'auteur s'intitule « Noël chez les mystiques rhénans ». Marie-Anne Vanier, de quoi s'agit-il ?
On a une équipe de recherche sur les mystiques rhénans et à partir de là, on publie des traductions de leurs textes, une encyclopédie, une anthologie et aussi un petit ouvrage que j'avais réalisé il y a quelques années sur Noël chez les mystiques rhénans. Et à partir de là, on a pensé qu'il serait bon d'envisager un spectacle, étant donné que les mystiques rhénans sont peut-être ceux qui ont le mieux compris le mystère de Noël. Alors, je partirai des trois naissances que l'on connaît habituellement et que distingue Jean Toller. La naissance éternelle dans la Trinité, naissance engendrement du Fils. Ensuite, Noël, la naissance temporelle et la naissance de Dieu dans l'âme à chaque moment. Et tout le spectacle est structuré autour de ces trois naissances. Et Eckhart lui-même est plus radical, il en reste à la naissance éternelle, mais cette naissance éternelle comprend les trois autres. Donc on a essayé de voir de quelle manière, en fait, le mystère de Noël était exprimé par les mystiques rhénans et comment aujourd'hui il est toujours parlant. Parce que, par exemple, Eckhart dit... Qu'est-ce que cela me fait que le Christ soit né à Bethléem il y a, bon, pour lui, 1300 ans, s'il ne naît pas en mon âme ? Et c'est une question aujourd'hui, justement, qu'en est-il du mystère de Noël pour chacun de nous ? Et ce spectacle essaye de nous faire entrer dans le mystère de Noël progressivement. Et arriver au fait que Noël, c'est chaque jour, comme le disait le chant de John Littleton.
Marie-Anne Vanier, qui sont les protagonistes de ce dialogue à quatre voix ?
Tout d'abord, un lecteur qui situe à chaque fois les différentes naissances, qui situe le contexte. Puis, le dialogue s'établit entre Eckhart et son disciple Jean Toller, et aussi avec une fille spirituelle d'Eckhart, appelée Sœur Catraille, Sœur Catherine. Donc voilà les quatre protagonistes de ce dialogue.
Sœur Catherine, c'est un personnage que vous avez inventé ou c'est une figure historique ?
Ce n'est pas ni l'un ni l'autre, je dirais, parce qu'on a un dialogue d'Eckhart avec Sœur Catherine. Et ce dialogue est un peu l'expression du rôle de pasteur d'âme d'Eckhart à Strasbourg. Et justement, Sœur Catherine, alors peut-être le nom le plus répandu, ou bien Catherine de Sienne, on ne sait pas exactement, est quelqu'un qui a pénétré vraiment la pensée d'Eckhart, qui a réalisé tout le cheminement et qui a connu la naissance de Dieu dans l'âme. Mais après 3 jours de léthargie, elle revient à elle-même et elle dit « Je suis devenue Dieu, en d'autres termes, j'ai été divinisée par grâce, je suis devenue par grâce ce que Dieu est par nature. »
Quand vous parlez de naissance de Dieu dans l'âme ou de divinisation, c'est le but de la vie spirituelle pour les chrétiens ?
Oui, tout à fait. Et Eckhart dit justement dans le sermon 38 que toute l'écriture a été écrite pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. Donc c'est la spécificité des chrétiens. Justement, Dieu qui prend visage humain, Dieu qui prend la nature humaine pour permettre à la nature humaine d'être introduite dans la vie même de Dieu, dans la vie de la Trinité. Et c'est tout cet admirable échange dont parlait par exemple Saint Léon le Grand et d'autres, et les différents conciles, c'est tout cet admirable échange qui se réalise à Noël par le mystère de l'incarnation.
Marie-Anne Vanier, présentez-nous aussi les trois lecteurs qui interprètent avec vous ce Noël chez les mystiques rhénans, sachant que vous-même interprétez Sœur Catherine.
Donc pour reprendre les différentes figures, le lecteur c'est Jean-Louis Souet qui était gardien du couvent des Capucins de Strasbourg, là qui est en mission à Rome pour quelques années. Écarte, c'est Jean-Claude Lagarrigue, qui est cheville ouvrière de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans, qui a traduit le commentaire de la sagesse Descartes et les paraboles de la Genèse, en même temps qui a travaillé Nicolas de Cuse. Et Tolère, c'est le père Antoine Lambrecht de Cheftogne, abbaye bénédictine de rite byzantin, et il est sous-prieur de ce monastère.
Dans quelques instants maintenant, Marianne, on va entendre cette lecture à quatre voix. Mais si on veut se procurer le texte et le lire à tête reposée et le travailler chez soi, où peut-on le trouver ?
Le texte lui-même, je peux l'envoyer, il n'y a aucun problème. Sinon, on a une version un peu plus large dans l'ouvrage « Noël chez les mystiques rhénans » publié chez Arfuyenne.
Merci Marianne, nous vous souhaitons de très lumineuses fêtes de la Nativité, portez-vous bien, à bientôt.
À vous aussi, très joyeux Noël, merci beaucoup et à bientôt.
Noël chez les mystiques rhénans, un conte théologique écrit par Marianne Vanier, interprété par Jean-Louis Sauet, Jean-Claude Lagarrigue, Antoine Lambrecht et par Marianne Vanier.
Voici que nous entrons dans le temps de la naissance éternelle. Alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit venait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'était lancée du trône royal. Voici que nous entrons dans le temps de la naissance éternelle, par laquelle Dieu le Père a engendré dans l'éternité et ne cesse d'engendrer, afin que cette même naissance se produise aujourd'hui dans le temps, dans la nature humaine.
Frère Eckhart, que fait Dieu le Père au ciel ?
De toute éternité, Dieu le Père engendre son Fils, et il l'engendre maintenant et l'engendrera éternellement. Le Père s'exprime parfaitement dans une parole qui est son Fils. Le Père n'entend rien que cette parole, il ne connaît rien que cette parole, il ne prononce rien que cette parole. Le Père prononce et engendre sa propre nature dans son Verbe éternel.
Qu'est-ce que le Fils entend du Père ?
Le Père engendre, c'est sa parole. Le Fils entend, c'est-à-dire qu'il est engendré. Tout ce qu'a le Père et ce qu'il est, il l'engendre entièrement dans son Fils unique. Voilà ce que le Fils entend du Père. Il nous l'a révélé pour que nous soyons le même Fils.
Frère Tolère, explique-moi quel est le lien entre l'engendrement du Verbe et le mystère de la Trinité.
La première et la plus sublime naissance est celle du Fils unique, engendré par le Père céleste dans l'essence divine, dans la distinction des personnes. Ma fille, cette naissance éternelle est célébrée par la première messe de Noël dans l'obscurité de la nuit. Elle commence ainsi. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Cette messe figure la naissance cachée qui s'opère dans le mystère et le secret inconnu de la Trinité.
Donc, frère Tolère, le Père demeure en lui-même. Et il s'exprime dans une parole qui est son Fils, et le Saint-Esprit l'accompagne.
Oui, ma fille, tu as bien dit.
En effet, le Père engendre son Fils, et cet acte est pour lui si délectable et lui plaît tant qu'il ne fait rien d'autre qu'engendrer son Fils, et tous deux font fleurir le Saint-Esprit dans l'éternité.
Quelle est donc la nature de Dieu, frère Eckhart ?
Le mot « Père » signifie un pur engendrement et une vie de toute chose. La nature de Dieu est donc de se donner. Le Père s'est d'abord communiqué dans la procession des personnes divines, puis il s'est répandu au dehors dans les créatures. C'est parce que Dieu est bon que nous existons. Et tout ce que les créatures ont de bon, elles le tiennent de la bonté essentielle de Dieu.
Reprenons en le traduisant le tropaire de Saint-Gall. Aujourd'hui, il nous faut louer l'enfant que le Père engendrait ineffablement avant les temps, et celui-là même que la Mère glorieuse a engendré dans le temps. Il demande : qui est cet enfant ? Que vous acclamez comme digne d'aussi grandes louanges. Racontez-nous, afin que nous puissions le louer ensemble. » Ils répondent : c'est celui que le prophète, élu de Dieu, a prédit il y a longtemps, en prévoyant qu'il viendrait sur la terre. C'est celui qui l'a proclamé ainsi : un enfant nous est né, différent des autres enfants, nés d'une vierge. Un fils nous a été donné, consubstantiel à la mère dans le temps, mais à Dieu le Père dans l'éternité. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. C'est le bois de la croix pour combattre tous les ennemis invisibles. Et il lui sera donné, par une faveur spéciale du Père, du Fils, dans les cieux, un nom qui sera pour le révéler en tant que Dieu aux Juifs et aux gentils, ange du grand conseil. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, parce qu'il a fait des merveilles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous sera donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Aujourd'hui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, prince de la paix. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles.
Mais alors, si le Père engendre son Fils dans l'éternité, il l'engendre aussi dans le temps. Comment cela s'est-il passé ?
Il y a là un grand et merveilleux mystère, ma fille. Dieu s'est fait homme, et en s'incarnant, il a pris notre condition humaine.
Et je dis bien plus. Dieu s'est fait homme, et il a assumé toute la nature humaine.
Oh, l'admirable échange de la divinité et de l'humanité.
En cette nuit, le Fils de Dieu est né d'une mère et il est devenu notre frère. Il a pris visage humain. C'est pourquoi la seconde messe de Noël débute ainsi. La lumière brillera sur nous aujourd'hui. Elle nous rappelle le rayonnement de la nature divinisée.
Cette messe se célèbre en partie pendant la nuit, en partie pendant le jour, symbole d'une naissance en partie connaissable et en partie inconnaissable.
Pour rendre compte de cet événement unique, inouï, qui s'est passé à Bethléem et qui a changé le cours de notre histoire, j'ai moi-même composé un hymne qui sera chanté par tous au cours des âges. J'y ai repris l'image du bateau qui n'apporte pas seulement la vie, mais aussi et surtout la vie nouvelle, le salut par cet enfant extraordinaire qui est homme et Dieu et qui nous donne de partager la vie divine.
Voici que s'avance un bateau avec sa cargaison là-bas, avec des cohortes d'angelots arborant le grand mât. Il nous vient avec ses bagages, envoyés par notre Père, et nous apporte en gage le Sauveur Jésus, notre frère. Le bateau glisse sur l'eau avant de toucher terre. Il nous ouvre le ciel là-haut et nous apporte la lumière. Marie a donné le fruit de sa propre chair, un enfant d'une grâce profonde. Homme et Dieu vont ensemble. Le voici, le doux et cher, allongé dans son berceau. Sa lumière nous éclaire, loué soit le Très-Haut. «
Marie, tu es sa mère, que ton nom soit loué. Jésus est notre frère, cet enfant bel et bon. Comme j'aimerais par moments embrasser cet angelot, et si j'étais malade, je guérirais aussitôt. Marie, Mère de Dieu, que ton nom soit loué partout. Jésus, notre frère en ce lieu, te glorifiera avec nous. Le Fils, Verbe de Dieu, est la vie, et la vie est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Que cette naissance se produise toujours, à quoi cela me sert-il si elle ne se produit pas en moi ?
Tous les jours et à chaque instant, cette naissance se réalise en nous si nous voulons bien lui offrir toute notre attention. Alors, dans cette naissance, Dieu devient tellement nôtre, il se donne tellement à nous que personne n'a jamais rien eu en si intime possession.
Voilà un mystère sublime. Mais pourquoi donc Dieu s'est-il fait homme ?
Pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu, ma fille. C'est pour cela que toute l'Écriture a été écrite. C'est pour cela que Dieu a créé le monde. Afin que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu.
Et l'Écriture elle-même ne dit-elle pas « Un enfant nous est né ?» Un fils nous a été donné, il est nôtre, tout à fait nôtre, plus que tout autre bien. Il naît à chaque instant et sans cesse en nous. Ma fille, ce don dépasse tous les dons. Dieu donne à l'homme le nom de Fils, et l'homme nomme Dieu son Père.
Ainsi, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne par grâce ce que Dieu est par nature.
Que Dieu me donne la grâce de cette naissance. Mes frères Eckhart, qu'est-ce donc que la grâce ?
La grâce, ma fille, c'est une présence intérieure, un attachement, une union à Dieu. Là, Dieu est avec toi. Alors, adieu la naissance. Il ne doit sembler impossible à personne d'y parvenir. L'œuvre que Dieu préfère et désire au plus profond, c'est d'engendrer son Fils en toi. Et à mesure que nous devenons ce même Fils qu'engendre le Père, par l'amour, nous sommes transformés en son Fils. Et nous sommes le Fils lui-même.
Mais comment puis-je y parvenir ?
En te laissant transformer par Dieu.
Si cette naissance doit resplendir dans sa pureté et sa simplicité, il faut qu'elle prenne sa source uniquement à l'intérieur et en Dieu, ma fille. Lorsque tu sors vraiment de ta volonté et de ton savoir, alors Dieu entre vraiment et librement en toi avec son savoir et resplendit dans toute sa clarté.
C'est le sens de la troisième messe de Noël. Elle est dite en plein jour, car elle nous fait penser à la naissance lumineuse qui, tous les jours et à chaque instant, doit se réaliser et se réalise en chaque âme bonne et sainte si elle veut bien y donner une amoureuse attention. Car pour sentir en nous cette naissance et en prendre conscience, il faut une concentration et un rappel de toutes nos facultés. Alors, dans cette naissance, Dieu devient tellement nôtre, il se donne à nous en telle propriété que personne n'a jamais rien eu en si intime possession. Le texte ne nous dit-il pas « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il est nôtre, tout à fait nôtre, plus que tout autre bien ». Il naît à chaque instant et sans cesse en nous.
Pour arriver à ce que cette noble naissance est en nous, toute sa noblesse et sa fécondité, il nous faut de toute nécessité faire retour sur nous-mêmes pour que cette naissance s'accomplisse. Il faut nous recueillir fortement, ramener et rassembler intérieurement toutes nos facultés, inférieures comme supérieures, et les ramener de la dispersion à la concentration, car elle rend toujours les choses plus puissantes en les unifiant. Si un tireur veut atteindre sûrement sa cible, il ferme un œil pour que l'autre vise plus juste. Il ne doit rester en nous qu'une simple et pure recherche de Dieu, sans plus aucun désir d'avoir rien qui nous soit propre. Et en quelque manière que ce soit, sans aucun désir d'être, de devenir ou d'obtenir quelque chose qui nous soit propre, mais avec la seule volonté d'être à lui, de lui faire place de la façon la plus élevée, la plus intime avec lui, pour qu'il puisse y accomplir son œuvre et naître en nous, sans que nous y mettions obstacle. C'est pourquoi tu dois te taire. Alors, le verbe de cette naissance pourra être prononcé en toi, et tu pourras l'entendre. Mais sois bien sûr que si toi, tu veux parler, lui doit se taire. On ne peut mieux servir le verbe qu'en se taisant et en écoutant.
Sœur Catherine se retire pour méditer. Et après 3 jours de léthargie, elle revient et dit à Eckhart.
Par grâce, mes frères, je suis devenu Dieu.
Reprenons cette réflexion toujours actuelle de Jean Tolère. On fête aujourd'hui une triple naissance, où chaque chrétien devrait trouver une jouissance et un bonheur si grand qu'il en soit mis hors de lui-même. Car il y a de quoi le faire entrer dans des transports d'amour, de gratitude et d'allégresse. Un homme qui ne sentirait rien de tout cela devrait trembler. La première et la plus sublime naissance est celle du Fils, unique engendré du Père céleste, dans l'essence divine et la distinction des personnes. La seconde naissance, fêtée aujourd'hui, est celle qui fut accomplie par une mère, qui, dans sa fécondité, garda l'absolue pureté de sa virginale chasteté. La troisième est celle par laquelle Dieu, tous les jours et à toute heure, naît en vérité, spirituellement, par la grâce et l'amour, dans une bonne âme.
Roll!